Voilà, alors aujourd'hui, on va partager ensemble. Alors, hein, on va poursuivre notre. On est sur une série sur Marc. Voilà. Et on a vu la semaine dernière que Marc, là, il s'était un peu posé. On avait eu un Jésus qui s'était arrêté sur cette barque, qui avait raconté. Alors, je ne sais pas si c'est le timing de Marc ou si sa manière de se rattraper. Là, aujourd'hui, on va faire un petit peu un marathon avec Chris. Alors, désolé peut-être de beaucoup d'informations qui vont avoir lieu, mais comme on dit, le Seigneur, voilà, on s'aime, on jette et retenez ce qui est bon. Là, on va faire un petit peu un marathon avec Jésus qui va traverser avec ses disciples plein de choses. Et c'est vraiment ça qui va ressortir. Et Marc pose cette question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Yeshua? Alors, j'ai mis en parenthèse. C'est le nom de Jésus en hébreu. Qui est Jésus? En fait, c'est depuis le début de l'évangile de Marc, on a vu bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Voilà comment Marc, il interpelle. On l'a vu dès le début de cet évangile. Marc, il est en train de présenter quelqu'un d'exceptionnel. Et il continue de le faire. Et il veut vraiment que le lecteur s'approprie. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on a tous, qu'on le veuille ou non, on a tous des personnes qui nous influencent. Une ou des personnes qui nous influencent. Quelqu'un qu'on va prendre comme référence. Quelqu'un qu'on va prendre comme maître. Quelqu'un qui va influencer nos pensées, nos manières de faire, nos manières d'être, nos manières de réagir. Alors, peut-être les plus jeunes que nous, il y a même un métier aujourd'hui qui s'appelle influenceur. Il y a des gens qui ont payé pour qu'ils influencent les plus jeunes. Parce que leur manière de parler dans leur chaîne YouTube ou sur TikTok ou peu importe les choses qui existent aujourd'hui, ils ont les capacités de rameuter. Alors pourquoi c'est important? Parce que un influenceur, eh ben, c'est quelqu'un qu'on va suivre, c'est quelqu'un qu'on va imiter, c'est quelqu'un on va comparer notre vie par rapport à ses valeurs. Et on a vu la semaine dernière que Jésus, c'est le personnage central de l'évangile, c'est le personnage même central des évangiles, et on pourrait dire de toute la Bible. Et Jésus, lui, se présente comme quelqu'un qui fait irruption dans le monde, mais avec un message. Et on l'a vu aussi, hein, ça c'est l'évangile de Marc, il y a un avant, il y a un après. Jésus, il est en train de dire, il y a quelque chose d'important qui est en train de se dérouler, il y a l'irruption du royaume de Dieu. Et Jésus, il se propose comme modèle à suivre. Et Marc, il est en train de dire, qui est Jésus? Je vais vous montrer qui il est. Est-ce que lui, il est le modèle qu'on peut suivre? Si on est croyant, si on est disciple, alors si on est disciple, on porte celui qui suit le maître. Mais si on est disciple, on se dit, est-ce qu'on suit vraiment Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui influence toute ma vie? Ou est-ce que c'est pas toujours le cas? Et quand on voit rapidement la facette de la personne de Jésus qu'on nous a déjà présentée, Marc va aller un peu plus loin. Et à chaque fois, on va contextualiser, hein, comme je l'ai dit, on va aller assez vite dans les pas de Jésus. Et Marc, il va contextualiser des points, des situations pour montrer qui est Jésus. Alors la première situation, on passera très vite parce que vous l'avez déjà vu. Mais il est important de comprendre que Jésus, lui, il va toujours surpris par son autorité. Ça, c'était le début de Marc, dans le contexte du passage qu'on va lire. Les gens étaient surpris de son autorité parce qu'il ne parlait pas au nom des maîtres. Il parlait de sa propre autorité. On l'avait vu, hein, il était le maître de tous les autres. Il se présente comme celui qui est au-dessus des autres, mais celui qui a la vérité. Et en plus, il prend tout le monde à contre-courant, hein, on l'avait vu. Il choisit ses disciples. À l'époque, c'est les disciples qui choisissaient leur maître. Ils allaient à l'école et ils disaient « je veux suivre un tel et un tel ». Et généralement, ses disciples, c'était des gens un peu, des fois, versés dans la théologie, des gens qui avaient envie d'apprendre. « Non, non, Jésus, lui, il vient, il va prendre des pécheurs. » Dans les deux sens du terme, parfois. Et il vient, il va côtoyer des personnes, il va faire l'inverse de ce qui est établi. Il va bousculer, et ça on l'a vu, et il se présente comme le maître. Mais si c'est le maître, c'est important pour des disciples. Et c'est pour ça que c'est important pour nous ce matin. Est-ce que Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est? Il se présente comme Messie, il se présente comme Fils. Est-ce qu'il est ce qu'il dit? Si, c'est vrai, c'est important parce que les disciples risquent leur vie, et aujourd'hui nos frères et sœurs risquent leur vie pour Jésus-Christ. S'il est vraiment celui qui dit qu'il est, c'est important pour nous. Et pour Marc aussi, c'est pour ça qu'il nous invite à lire. Alors ce matin, on va lire la fin du chapitre 4, Donc c'est 35 à 41 et le chapitre 5. Alors je ne lirai que des morceaux, on le fera petit à petit, je ne vais pas tout lire d'un coup. Alors là, c'est la fin de ce qu'on a vu la semaine dernière, Jésus qui expliquait les paraboles à ses disciples en particulier. Et on a verset 35 de l'évangile de Marc, au chapitre 4, moi je vais lire dans la version second. Ce jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Donc ils étaient sur le lac, ils vont traverser le lac. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et d'autres aussi, d'autres avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi, et le vent cessa. Il eut un grand calme, puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment m'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Alors c'est important de toujours remettre dans un contexte. On voit les disciples, ils sont sur la barque. Et les disciples, il y en a beaucoup d'entre eux qui étaient des pêcheurs professionnels. C'était leur métier. Ils connaissaient le lac, ils connaissaient bien les milieux, ils connaissaient, les tempêtes, ils avaient dû déjà en essuyer, c'était peut-être pas la première. Et c'est des navigateurs, ils connaissent, ils n'ont pas forcément peur de l'eau. Et ils connaissent la puissance de la nature, ils savent comment ça peut se déchaîner. On n'a pas affaire à des personnes qui étaient recluses. Ils connaissent le lac, ils savent ce qui se passe, et d'un coup il y a une tempête. Et la tempête était tellement importante qu'ils ont eu peur. Alors ça devait vraiment être une tempête qui faisait peur, parce que sinon ils auraient pu maîtriser les choses. Ils se seraient dit, non mais on connaît, on a déjà eu ce genre de choses. Mais là, ils se sentent même condamnés à mort. Quelque part, dans leur pensée, ils disent, ça y est, on va mourir. On va mourir sur l'eau. Alors voilà, hein, c'est pour ça que des fois on est des fois assez rapide à juger les personnes qui vivent les événements. Mais moi, je suis sur une barque où je risque ma vie et je sais que quelqu'un peut me sauver, je le réveille aussi. Hein. Enfin, j'aurais cette tendance de me dire, faut que tu fasses quelque chose. Et là, c'est pour ça, ils sont en danger de mort, ils se disent, mince, on va mourir. Donc ils réveillent leur maître et ils disent, maître, on va périr, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais rien. Et qu'est-ce que fait Jésus une fois réveillé ? Il menace le vent, il menace la mer et tout s'arrête. Et ce qui est incroyable, c'est le verset que j'ai souligné, c'est au verset 41, ils viennent de vivre quelque chose d'effrayant, on pourrait dire humainement. Le vent, tout se déchaîne. Et la Bible nous dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent la mer et le vent ? On a l'impression qu'ils découvrent Jésus sous un nouveau jour. Ils étaient persuadés qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais ils savaient pas comment. Mais Jésus prononce des paroles d'autorité qui font cesser la nature s'arrête de se déchaîner. Et là, eux, ils sont saisis de frayeur. Alors, ils avaient peur avant, mais là, c'est la frayeur qui les... C'est-à-dire qu'ils ont plus peur de Jésus, quelque part, une sainte crainte de Jésus, que des éléments avant. Et là, ça les frappe. Qui est donc celui-ci ? Qui il est ? C'est une question qui résonne, qui va résonner, j'allais dire, dans tout Marc, hein. Qui est Jésus-Christ ? Et là, c'est pour ça que je passe très vite, parce que vous l'avez déjà vu avec le culte tous ensemble. Mais voilà, c'est vraiment ça qui interpelle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui traversent dans la barque. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être effrayantes, mais la Bible souligne que c'est l'action de Jésus qui rend Jésus à leurs yeux incroyable. Il dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on a vu là ? Qu'est-ce qu'on a déjà vu ? Qui est Jésus ? Donc, il est le maître de la nature. La nature a reconnu son maître, elle a obéi. Quand il a parlé au vent, quand il a parlé à la mer, la nature a reconnu cette voix de la création. Elle s'est tue, elle s'est calmée, elle a obéi. Et les détracteurs des religions, y compris de la Bible, par exemple Freud, disaient que la religion avait été créée pour rassurer les hommes face à des phénomènes inexplicables. On peut pas les comprendre, on dit que c'est des dieux. Voilà, c'était sa manière de penser. Alors, je suis pas spécialiste, mais on peut aller plus loin. Mais disons que c'est pas le but, parce que là, on voit bien que dans ce passage, la Bible nous dit que c'est pas tant la tempête qui les effraie. Bien sûr, ça leur a fait peur, mais c'est même l'action de Jésus-Christ qui les fait peur. Et face à l'inconnu, ça dépasse toute leur connaissance. Ils disent, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? La tempête s'est effacée, le vent s'est calmé. Qui est donc cet homme? Si la nature lui obéit, si la nature le reconnaît pour maître, est-ce que nous, on est capable de le reconnaître pour maître? Est-ce qu'on est capable d'entendre et d'obéir à ses paroles et de le suivre? Si la nature est soumise à Jésus et si je suis son disciple, eh ben je dois lui être aussi soumis. Pas dans le même niveau, mais je dois être aussi soumis. Parce que je sais que tout est entre ses mains. Si ses mains percées ont porté pour moi le prix du péché à la croix, alors s'il est mon Seigneur et Sauveur, malgré mes angoisses face aux situations, que tout ce qu'on a pu traverser, on parlait des tempêtes dans les prières, dans les chants, ben c'est exactement ça. Malgré toutes ces tempêtes, ben Jésus, il peut calmer les choses. Alors pas de manière aussi flagrante toujours. Des fois, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau et on a vraiment l'impression de couler. Mais c'est lui qui s'est donné la paix. Et quand il la donne, elle est incroyable. Quand il la donne, elle est complète. Et le Seigneur, on a vu, il réagit et après, il reprend. Et si tu vis dans la certitude du lendemain, ce matin, est-ce que tu reconnais en Jésus le maître de la création? Eh ben, c'est aussi le maître de tous ceux et celles qu'il a créés avec son Père, co-créés. Et il peut venir à ton secours et délivrer de l'angoisse. Et ça, c'est beau. Les disciples sont délivrés de l'angoisse de la mort et ils sont frappés de frayeur face à Jésus-Christ. Qui est ce maître? Alors là, on voit, on va aller très vite avec Marc, hein, parce que là, dac, on débarque de l'autre côté. Ils étaient dans la barque, ils allaient de l'autre côté, ils arrivent dans le pays qui était de l'autre côté du lac. Et voilà, Marc 5. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarésiens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres, sortant des tombes, hein, ils sont dans un cimetière, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure parmi les sépulcres et personne ne pouvait les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus, les chaînes, et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il courut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de ce corps de cet homme, impur, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il lui priait instamment de ne pas renvoyer hors du pays. Là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est pas la première fois que on a affaire à des, j'allais dire, à des libérations de démoniaques. Mais là, on a les disciples qui arrivent. Ils ont vu Jésus, qui a cette autorité. Ils arrivent à l'endroit où Jésus leur a dit d'aller. Ils posent le pied et un homme sort. Il devait pas être, visiblement, il n'est pas décrit ici, mais on suppose que c'était quelqu'un qui devait avoir des meurtrissures partout. Il se blessait avec des pierres. Et c'est quelqu'un qui était indiscipliné, personne ne peut le dompter. Et on s'imagine quelqu'un qui vient chercher peut-être la bagarre, il arrive de loin, et finalement pas du tout, il arrive dans un état de négociant. Il veut négocier quelque chose, il a peur de Jésus. Il a peur, et on imagine pas trop nous, parce qu'effectivement c'est pas des choses avec lesquelles nous sommes courantes. Mais les disciples voient ça, voient cet homme arriver, et ils s'arrêtent avec Jésus, puis il dit « Je t'en conjure ». Il se prosterne devant lui. Quelqu'un qu'on peut pas enchaîner, quelqu'un qu'on peut pas dominer, quelqu'un qui a toujours visiblement fait peur, qui vit seul, qu'on a essayé de chaîner, qu'on a essayé de briser. Mais non, il fait toujours ce qu'il veut, dominé par un esprit impur. Là, il vient se prosterner. Et il reconnaît. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Voilà, il a clairement identifié qui est Jésus. Et il sait que Jésus a cette capacité de le chasser. Et en fait, il vient négocier. Et ça, c'est assez surprenant de la part de quelqu'un que aucun homme, aucune force ne pouvait lier. Légion va reconnaître, donc Légion, c'est comme ça qu'il va se présenter. Et il reconnaît immédiatement le Fils du Très-Haut. Et il reconnaît immédiatement son impuissance face à Christ. Et il dit, il va même demander la permission. C'est-à-dire, il se sent tellement incapable de faire quelque chose qu'il demande la permission, et ça, c'est plus loin. Il dit, il leur permit, Ce qu'il va leur demander, ça c'est au verset 12, et les démons prièrent, le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Ils sont plus du tout dans un état de domination de quoi que ce soit. Ils se savent, j'allais dire, à la merci du Fils du Très-Haut. Et c'est une scène incroyable. Moi, j'imagine les disciples derrière, c'est assez incroyable, c'est assez insolite. L'homme est avili, hein, donc il dit abaisser quelqu'un jusqu'à le rendre méprisable. Hein. C'est quelqu'un qui était vraiment possédé de plusieurs démons. Et on sait la fin des cochons. Les cochons vont se jeter de la montagne. Hein. Ils vont pas supporter d'être. Donc ils vont se jeter de la montagne. Mais pour les disciples et puis pour le temps de Jésus, les exorcismes existaient. C'était pas quelque chose de très courant, mais c'est pas quelque chose non plus de rare et de caché. Mais là, c'est même plus. Je veux dire, là, on a affaire à une toute-puissance. Une toute-puissance. Les démons sont soumis totalement au Fils de Dieu. Ils sont désarmés. Leurs actions sont limitées. Ils ne peuvent rien faire sans demander la permission. Et ils sont hyper polis. Pour des gens qui étaient tout seuls, ils sont « Je te prie, s'il te plaît, hop !» On commence à négocier à fond avec quelqu'un qui est trop puissant pour nous. Alors c'est vrai, hein, comme je le dis, pour nous, c'est que des fois, c'est que des textes. Mais pour l'homme qui était possédé, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Parce qu'il se dit peut-être qu'il y a quelque chose derrière une délivrance. Et les démons sont donc complètement désarmés face à Jésus. Du jamais vu pour les disciples. Jésus n'est pas seulement le maître de la nature. Parce que là, c'est la question. Hein, j'ai souligné les questions un peu. Qui était donc cet homme? Ça, c'était les disciples qui s'étaient posé la question dans la barque. Qui est cet homme? À qui les éléments obéissent, là, le démon arrive, puis il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Très-Haut ?» Parce qu'il est aussi le maître supérieur en puissance, hein, de Satan et de ses démons. Satan est totalement désarmé. C'est dans le sens où Satan ne peut rien faire si Jésus, et donc Dieu, ne lui permet pas. Les hommes sont rapidement sous l'emprise du malin. On l'a chanté, on l'a vu. Il y a quelqu'un qui disait « Ne fais pas le malin avec le malin. » Parce qu'on aura perdu d'avance. C'est quelqu'un qui nous connaît beaucoup mieux que nous. Il connaît nos cœurs et notre capacité à tomber. Mais face à Jésus, il tremble et ne peut que s'enfuir. Un homme de Dieu disait aussi « Depuis la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, Dieu a gagné. » Le peuple de Dieu a gagné la guerre en Jésus-Christ et Satan ne fait donner que des combats d'arrière-garde. Il est déjà vaincu. Il n'y a pas à avoir une grande bataille. Elle a déjà eu lieu à la croix et à la résurrection. Et ça, c'est un réconfort pour nous. Ce matin, nous sommes libérés. Comme cet homme était possédé, nous étions entachés du péché. On n'était pas forcément possédés, mais on était enchaînés au péché. Et lui, ça va être un des premiers évangélistes du monde, parce que la suite, hein, là, le temps nous manque, mais... À la suite, les gens le reconnaissent et il dit « Je veux te suivre ». Il dit « Non, va dans les villes et dis ce que j'ai fait pour toi ». Un des premiers évangélistes, il reconnaît Jésus et il dit « Non, mais oui, c'est impossible ce qui s'est passé ». Et là encore, hein, on a la frayeur, ça c'est le version 16, c'est dans le verset 16, 15 et 16, « Ils vinrent près de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu légion, assis, vêtu et dans son bon sens », c'est-à-dire il a retrouvé ses esprits, et ils furent saisis de frayeur. Encore la frayeur. Ces hommes-là connaissaient cet homme, et d'un coup, ils le voient complètement différent. On dirait aujourd'hui bien, bien, bien sapé, avec cohérence, quelqu'un capable de discuter, parce que visiblement, il faisait que des cris. Et au lieu de se réjouir, ils ont peur. Ils disent à Jésus, « Ah oui, ok, non, mais tu peux repartir. » Parce qu'ils sont saisis de frayeur. Parce que la frayeur, comme la même frayeur que les disciples, peut-être en plus, c'est-à-dire, qui est donc cet homme? Ça résonne, qui est donc cet homme? Mais cet homme est capable aujourd'hui de te délivrer de l'esclavage de Satan, et ça c'est une glorieuse nouvelle pour les enfants de Dieu. J'étais esclave du péché, en Jésus-Christ j'en suis libéré. Et ce matin encore, il a encore la capacité, toute capacité, de nous libérer de nos péchés, de nos travers, de nos chaînes. Et on peut être dans la tourmente, on peut être dans les difficultés. Je pense pas que vous errez en petite tenue dans les cimetières, possédé par un démon. Et pourtant, cet homme qui était si avili par Satan, piégé, a été libéré par un simple mot de Jésus. Et aujourd'hui encore, il peut faire ça pour nous. Car Christ est plus que vainqueur sur le royaume de Satan. Et c'est ce que Marc est en train de dire. Il y a eu une domination du royaume. Mais là, il y a l'irruption du royaume de Dieu. Jésus ouvre une faille, une brèche, qui va aller qu'en s'agrandissant au travers l'Église et qui va finir totalement lors de son retour. Il est en train de dire, il y a quelque chose de nouveau. C'était pas possible avant. Aujourd'hui, ça l'est en Jésus-Christ. Et parfois, on peut être brisé, on peut être avili, seul, ressemblant à un animal. Et si vous avez vu des fois des reportages sur certaines addictions, bah, ça ressemble un peu à ce qu'on voit là. À part qu'ils habitent pas dans des tombes, mais on a des gens qui peuvent être des gens qui sont addicts à certaines drogues. Eh ben, ont aussi cette allure. Et on peut te rendre libre. Et c'est ça la bonne nouvelle de la Bible. Dans Colossiens 2, verset 15, « Il, Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Mais Marc, il s'arrête pas là. Parce que là, on a vu domination de la nature, maître de Satan et de ses démons, mais on continue. Allez, on repart. Vous savez, Marc, c'est l'évangile où ça bouge tout le temps. Et là aussi, on a un passage plus connu. On poursuit. Jésus regagne la barque, il va de l'autre côté de nouveau. Et au verset 23, donc de ce chapitre 5, un homme, 22, « Alors vint l'un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui ayant aperçu donc Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité donc de sa vie, elle va mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc on a Jésus qui arrive, une foule qui l'accueille, et dans cette foule, il y a un homme, Jaïrus. Il lui dit, viens, ma fille va mourir. Viens avec moi. Et s'il te plaît, tu imposes les mains, elle pourra vivre, elle pourra être sauvée. Et on se dit, ouais, Marc, c'est bien, il nous introduit ce qu'on va vivre. On va vivre une guérison. Mais quelque chose va interrompre pas le récit, mais interrompre la mise en place, Jésus se va chez Jaïrus et il y a quelque chose qui va l'arrêter. Et on lit, à partir du verset 25 du chapitre 5, Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit que dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse ?» Et tu dis « Qui t'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Là encore, on a besoin, parfois, de contextualiser une scène qui va très vite en quelques versets. On a un homme, un papa, qui vient. Il prie Jésus, il dit, « S'il te plaît, viens guérir ma fille. Elle va mourir, s'il te plaît, viens. » Jésus se met en route, plein de monde autour, et d'un coup, il s'arrête. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une femme qui l'a touché, mais cet homme n'est pas censé le savoir, et les disciples ne l'ont visiblement pas vu. Il s'arrête au milieu, puis il demande, « Qui a touché mes vêtements ?»« Qui a touché mes vêtements ?» Il y a encore une interrogation, « Qui a touché mes vêtements ?» Et là, on imagine, la Bible le dit, les disciples sont perplexes. Ils disent, « Mais qui t'a touché ? Regarde ce monde. Comment tu veux qu'on sache qui t'a touché ?» Jésus, il n'y avait pas les services d'ordre de sécurité comme aujourd'hui. Quand il se déplaçait, c'était vraiment tout le monde qui venait le presser et le serrer. C'était pas évident de se frayer un chemin. Mais Jésus, lui, il sait. Et il s'arrête. Alors, visiblement, il y a aussi la femme qui nous dit, verset 25, « Or, il y avait une femme. » Donc, on a deux histoires qui s'imbriquent. Et cette femme, elle sait que son dernier espoir, c'est Jésus. Parce qu'il faut savoir que dans la vie en Israël, avoir une perte de sang, une maladie de perte de sang, est quelque chose qui nous rend impur. Et le problème de la vie telle qu'elle est érigée par les règles de pureté. Alors ça, c'est quelque chose qui nous, parfois, nous échappe parce que c'est plus du tout à l'ordre du jour, mais à l'époque de Jésus, et ça suivra encore jusqu'aux années 70, c'était vraiment la pureté qui était un stade important. Tant qu'on est impur, on pouvait pas être proche de quelqu'un. Et cette femme, par cette maladie, elle a été isolée socialement. Pareil que si elle était lépreuse. Elle a été isolée socialement parce que sa maladie l'empêche de côtoyer les autres. Parce que si on la côtoie, on devient pur. Et si on devient pur, ben il faut se purifier avant de pouvoir faire autre chose. Donc finalement, elle finit par se retrouver seule. Et être une femme seule en Israël à l'époque de Jésus, c'était pas simple. Et c'est pour ça qu'elle dit là, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a essayé. Mais c'est fini en fait, plus personne l'approche, plus personne le sait, elle est toute seule. Tout ce qu'elle possédait a été dépensé pour guérir et rien n'est allé. Là, elle dit, la seule chose que j'ai, c'est de toucher son vêtement. Elle n'avait pas le droit, d'ailleurs. Cette femme ne devait pas nous toucher. Si elle nous touchait, elle nous rendait impurs. Donc, on ne devait pas la toucher, l'éviter, la laisser tomber, parce que bon, c'est... Alors, pour nous, ça nous paraît, on se dit, waouh, quelle est cette manière de penser? Mais pour eux, c'était une pensée justifiée par la sainteté de se présenter devant Dieu. Et d'aller au temple, et d'aller faire les choses. On ne pouvait pas se souiller. Et cette femme était souillée. Et pourtant, elle prend le risque de traverser la foule, d'être repérée en tant que personne impure. Elle prend le risque de toucher Jésus. Il faut savoir que si vous touchiez un rabbi itinérant tel que Jésus se présentait à l'époque, alors que vous étiez impur, ça pouvait être difficile pour vous. Parce que vous avez sali un homme qui était pur. Mais comme on l'a déjà vu avant pour Marc, il nous dit, lui, Jésus, il transforme l'impureté en pureté. En fait, on ne peut pas rendre impur Jésus. C'est lui qui vaut impur. C'est comme lorsqu'il avait chassé la lèpre, comme il avait guéri la lèpre. La lèpre, c'était une maladie, hein, on l'a vu dans Marc 2. La lèpre était ce même genre de maladie qui nous isole, mais lui, il est capable, il touche. Et c'est pas lui qui est impur, c'est sa pureté qui est répandue. Et Marc, là, nous fait la même chose, il dit, voilà, elle a touché le vêtement. Et Jésus sait que quelqu'un a été guéri, et il dit, il s'arrête, et il dit, qui a touché mon vêtement? Et là, c'est incroyable parce que Jésus se présente comme le dernier recours, comme celui qui est le dernier espoir. Mais non seulement il s'y présente, mais il remplit le job. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui fait un chèque en blanc. Il se présente comme quelqu'un qui est capable de faire, de guérir, de soigner, d'être celui de toute extrémité, mais c'est ce qu'il est vraiment. Parce que quand cette femme le touche, il est dit, c'est immédiat, au même instant. La perte de sang s'arrête. Au même instant, il n'y a pas attendu, va vérifier, va voir, on va regarder, non. Au même instant, elle l'a senti. Au même instant, elle est passée de cette femme souffrante depuis 12 ans, isolée du monde, dans lequel elle vivait, isolée de la société. Ça, c'est aussi terrible. À quelqu'un qui est sauvé, guéri. Elle est sauvée aussi socialement. Et là, au lieu de rester une femme anonyme, dans la foule, Jésus s'arrête et dit qu'il m'a touché. Elle se sent obligée de sortir et de qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette à genoux. Et Jésus, lui, c'est ce qui provoque en fait. Tout le monde se jette à genoux. Que ce soit le démon Légion qui se jette à genoux, que ce soit cette femme qui se jette à genoux. Alors ils se mettent pas à genoux pour la même chose, mais ils se mettent à genoux devant la puissance de qui est Jésus. Elle lui explique tout. Elle lui dit voilà qui j'étais. Elle prend le risque d'exprimer qu'elle a traversé une foule de gens purs. Elle qui est impure. Et elle dit, voilà, maintenant je suis sauvée. Jésus, lui, il la condamne pas, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Voilà, c'est aussi ça, ce matin, qu'on peut retenir. Sois en paix, sois guérie de ton mal. As-tu la foi d'être guérie? Bien que la guérison n'est pas forcément physique, hein, bien sûr, là, dans la Bible, on a des fois beaucoup de guérisons physiques. Je vais pas dire que Dieu ne guérit plus physiquement, mais il est venu surtout pour le péché. Il est venu surtout d'être guéri du péché. Et c'est aussi ça l'important. Jésus peut, par le toucher son vêtement, tu peux être guéri tout de suite, mais tu peux être guéri tout de suite de ton péché si tu le laisses laver à la croix. C'est aussi l'un des maux qui peut se débarrasser. Et c'est dans un livre qui s'appelle « Suis-moi » que David Platt exprimait aussi ça. Il dit « Sa belle-mère était malade, et elle n'a jamais été guérie. » Malgré les prières, mais elle a été guérie du péché parce qu'elle s'est convertie. Elle dit, malgré tout ce qu'elle a subi à l'hôpital et qu'elle a fini par décéder de cette maladie, elle a été guérie de la pire maladie qui existe. La maladie du péché. Souvent, on la sous-estime, parce que c'est sûr, c'est mieux d'aller bien. Je ne connais pas quelqu'un qui aime souffrir. En tout cas, s'il est dans son bon sens. Mais voilà, c'est pas à nous de choisir. Mais Christ, il a la capacité. Il a la capacité de le faire. Et c'est pour ça qu'il est aussi le maître de nos corps. Il est le maître de nos corps dans tout ce que nous sommes. Corps et esprit. Il est capable de guérir l'intérieur comme l'extérieur. Pourquoi ? Bah, par la même chose que la nature, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais là, on voit que c'est un peu quelque chose de tiroir. Je veux dire, il y avait une histoire au début. Il y avait Jairus, il y avait sa fille. Alors, qu'est-ce qu'elle devient? Parce que là, les disciples, eux, ils sont surpris que pourquoi il y a une urgence médicale. Leur maître s'arrête, il pose une question saugrenue qui m'a touché. Bon, ouais, je sais pas, il y a 500 personnes. Il dit, bon, ben voilà, maintenant je m'arrête. Il y a une femme qui vient, elle explique tout. On perd du temps. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il est dit, verset 35, juste après qu'il ait annoncé, jusqu'à après que Jésus ait rétabli cette femme, hein, il dit, comme il parle encore, survint un des chefs de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il a entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une grande foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Elles furent un grand étonnement. Il leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Elle leur dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jusqu'au verset 43. Alors, là aussi, hein, on peut s'imaginer la scène, en fait. Comme je le dis souvent, hein, nous, on est des fois, on décontextualise, mais moi, j'imagine Jairus, là. Il était le premier. Aujourd'hui, on dirait j'étais le prums, quoi. Et pourquoi cette femme, elle est passée avant? Et en plus, on a perdu du temps. Et quand Jésus est en train de parler à cette femme, on m'annonce que ma fille est morte. Qu'est-ce qui a dû se passer dans le père? C'est pas trop, hein, moi, j'imagine, je suis papa, je dis viens. Aujourd'hui, on peut pas trop comparer, mais imaginons, on appelle les pompiers, il y a quelque chose de grave qui arrive chez moi, le pompier fait, ouais, j'arrive, je fais un détour, parce qu'il y a un mec là qui est en train de tomber. Et puis en attendant, là, ça s'aggrave. Je sais pas comment on reçoit les secours. Et là, c'est un peu ça, toute proportion gardée, c'est un peu ça. Il y a une femme qui était malade depuis 12 ans, bon, elle n'était pas en danger mortel, elle aurait pu attendre après. Voilà, tu guéris ma fille, et puis après tu reviens, et voilà, tu fais les choses dans l'ordre aussi. Mais vous avez vu, Jésus, lui, s'affranchit de tout ce qu'on pense, en fait. Il fait comme lui doit le faire, parce que c'est ce pourquoi elle est envoyée. Donc cette urgence médicale est devenue un cas irrécupérable. Alors on lui annonce, désolé, n'importune plus le maître, c'est bon, elle est morte. Voilà. Et que dit Jésus? Il dit, voilà, crois. Et là, il faut, facile à dire, hein. Nous, on le lit, on dit, facile à dire. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de comment j'aurais réagi en tant que Jairus. Jésus me dit ça, je suis, oui, t'es bien sympa, mais bon, maintenant qu'elle est morte, tu veux faire quoi? Il faut de la foi, hein. Il faut de la foi. Mais c'est le désespoir. Quand il rentre dans la maison, c'est la maison du désespoir. On a de grands cris, des grands pleurs. Bon, c'était souvent le cas aussi dans les enterrements. Lors de la mort de quelqu'un, il y avait des pleureuses, il y avait des gens, on pouvait... Puis comme Jairus était visiblement quelqu'un qui avait suffisamment de moyens, on pouvait même payer des gens professionnels pour pleurer sur la mort de quelqu'un, surtout une petite fille de 12 ans. Et quand il rentre, hein, comment il est reçu? À part moquerie. Parce que là aussi, Jésus, il pose toujours les bonnes questions. Il rentre au verset 39, il entre et il leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et Jésus pose la question et il y répond « Et qu'est-ce qu'on a en face de la moquerie ?» Alors moi, je les juge pas, hein, parce que je me serais aussi sûrement moqué. Je fais « Qu'est-ce qu'il raconte, en fait ?» Elle est morte, tout le monde le sait. On l'a vu qu'elle était morte. Donc c'est normal qu'on pleure. Et puis pourquoi on pleure ? Bah parce que c'est triste qu'une fille soit morte. Et déjà, il arrive en retard. Et en plus, il nous dit pourquoi on est triste. Quelque part, on a l'impression que Jésus dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes ainsi ?» Elle dort. Et on se dit « Mais qui est-il ? Pour qui il se prend ? Qui se prend cet homme-là ? Qui se prend ce maître ?» C'est incroyable, c'est une audace qui dépasse tout. On n'a plus le droit d'être malheureux. Moi, j'imagine les questions qu'on peut se poser. Parce que souvent, moi, quand j'étais plus petit, j'étais du côté de Jésus. Je lui disais, mais il est capable de le faire. Mais quand on grandit et qu'on imagine d'être à la place des parents ou des proches et qu'il y a la fille qui est morte et on sait qu'elle est morte, et puis quelqu'un qui rentre et qui dit non, en fait, elle dort. Bon, on n'a pas toujours le même regard. Hein. On n'a pas toujours le même regard face à... On se dit, mais qui il est, quoi ? Et il met tout le monde dehors. Il dit, allez, tout le monde dehors. Hop. Maintenant, j'en laisse que quelques-uns. Et qu'est-ce qu'il fait ? Hein, on a aussi parlé que dans Marc, c'est beaucoup le toucher, hein, vous avez vu. Hein. Marc, c'est beaucoup le toucher, la femme qui l'a touché, le lépreux qui avait été touché. Et là, il prend la main de la petite fille et puis il lui dit « Talita Kumi, jeune fille, lève-toi ». Et elle se réveille. Et donc, elle ressuscite. Ah oui, ça, c'est incroyable. Hein. Moi, j'ose pas imaginer, je sais pas comment imaginer ce qu'ont pu passer les parents. Ça devait être les montagnes russes des émotions. Jésus est là, il va pouvoir guérir. Ah non, il a pris trop de temps, du coup, elle est morte. Ah ben non, finalement, elle l'est pas. C'est, Et en même temps, c'est assez effrayant. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Et donnez-lui à manger, parce que la jeune fille, elle a faim. Ça, on imagine la stupeur des parents qui devaient peut-être bouche bée à rien faire, quoi. Ils la voient juste se lever. Bah, donnez-lui à manger, faites quelque chose, quoi, maintenant. Et ça, c'est, moi, j'ai jamais assisté à des résurrections, hein, ça, je l'avoue. Mais je sais qu'elles sont possibles. Je le crois, personnellement. Mais je sais que j'ai été spirituellement ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, de ceux et celles qui ont cru. On était morts spirituellement et on est ressuscité. Et maintenant, on vit par la grâce de Dieu. C'est la même grâce qu'il a fait à cette petite fille qui nous a fait à nous en nous rendant la vue spirituelle. Car Jésus, c'est aussi le maître de la mort. Et voilà, ça c'était pourquoi l'enfant, pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se présente comme celui qui est le prince de la vie. Face à Jésus, la mort, même la mort elle-même est vaincue. Ça c'est déjà un signe de sa toute-puissance. Jésus est un maître incroyable. Il rend la vie physique, il peut le faire, mais surtout la vie spirituelle. Parce que c'est lui qui peut le faire. C'est ce que dit Éphésiens 2, au verset 4, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont nous a aimés, lorsque nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie sagesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Voilà, clairement, nous étions morts par les offenses. Et là, les disciples, ils ont cavalé derrière Jésus et ils ont appris plein de leçons, en fait. Et ces leçons que Marc nous laisse aussi, au travers son évangile. C'est très riche en enseignements. C'est très riche en enseignements. Et on voit que la fille qui avait 12 ans, c'est-à-dire que quand elle est née, cette femme, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de ce mal. C'est aussi un petit clin d'œil en disant, voilà, elle a souffert tout le temps que la fille de Jaïrus, ce même âge. Imaginez 12 ans de souffrance. Pour Jaïrus, il s'est dit, j'étais le premier, voilà, ma fille est morte. Sa fille n'a peut-être pas souffert 12 ans. 12 ans de souffrance, c'est terrible. Et là, les disciples qui ont fait derrière, ils ont vécu des choses incroyables. Incroyables. Et dans toutes ces choses incroyables, qui est Jésus ? Voilà comment Marc répond. Ben, c'est le conquérant. C'est pas un des conquérants, c'est pas Alexandre, c'est pas Rome. C'est le conquérant. Parce que lui, il vient d'un royaume qui n'est pas de la terre. C'est celui qui vient conquérir tout ce que le diable avait pu avoir comme liberté. C'est lui qui va venir reprendre tous les droits qui avaient été donnés lors de la chute. C'est lui qui va ne plus avoir de limites. Jésus, c'est celui qui a toute autorité sur absolument tout. Et comment on répond alors ? Est-ce qu'on est d'accord avec Marc ? Parce que Marc posera la question jusqu'au bout de l'évangile. Mais il le présente au moins, et on peut se faire une idée. Ce matin, qui est donc Jésus ? Un homme, un sage, un enseignant. Ces gens venaient le voir par l'enseignement, guérisseur, Un homme exceptionnel qui fait des miracles? Ou est-ce qu'il est celui que disait Légion, ce fils du Dieu Très-Haut? Et on sait très bien qu'il est impossible de faire le tour de Jésus. La personne de Jésus est tellement vaste, elle est même infinie, mais les évangiles nous font des points, nous mettent des comme des loupes sur des situations qui nous apprennent. Avec Jésus, on passe de l'étonnement, on passe de la frayeur de qui il est à la grâce qu'il nous a faite. Et on introduit ce culte en disant cet honneur qu'est la prière. Mais oui, l'honneur et la grâce de nous présenter devant celui qui a toute capacité. Rien que ça, disait aussi mon prof, rien que la grâce devrait réjouir le chrétien pour toute sa vie. Même si ça va pas, même s'il y a plein de choses qui vont pas, la grâce d'être sauvé. Pourquoi Dieu m'a choisi, moi? Je n'ai rien. Ni compte en banque, ni belle voiture, ni classe, rien qui permettait à Dieu de dire « Oh, j'ai besoin de toi ». C'est la grâce, et la grâce émerveille. Et c'est ce que fait Jésus. Il émerveille les gens, tout en parfois les choquant, tout en parfois les effrayant, mais il dit « Mais qui est Jésus ?» C'est le conquérant. C'est celui qui fait irruption dans l'histoire humaine pour dire « Il y a un royaume dont je suis le roi. » Et voilà, moi, ce que je peux faire. Comme je le disais tout à l'heure, il fait pas un chèque en blanc. Il vous promet pas quelque chose qu'il ne peut pas faire parce qu'il est allé jusqu'au bout à la croix. Et c'est comme ça que nous présente Marc. Marc, il dit pas il y a un truc qui a été surpris. Non, il a jamais été surpris. Il a toujours su ce qu'il allait faire. C'est arracher ceux que nous étions aux mains de Satan et nous proposer la vie, comme il était dit dans Éphésiens. Et aujourd'hui, il peut t'arracher de ta vie sans espérance, il peut t'arracher de ta vie de souffrance, il peut t'arracher du vide que t'as dans le cœur. Et il peut te dire, moi, je suis digne d'être suivi. Alors ça, c'est deux images, hein. Qui tu veux suivre, qui est mon modèle. Alors on va mettre 99,9% des modèles, c'est ceux qui t'amènent à la petite fille là, qui vont dans le vide, et la Bible qui présente le modèle en Jésus-Christ, et qui transforme des vies. Mais c'est un passage obligatoire. On peut pas passer à côté. Et c'est ce que proposait Marc à l'époque où il a écrit. C'est ce que propose Marc aujourd'hui au travers ce qu'on étudie. Ne passe pas à côté du modèle. Parce que Jésus-Christ, c'est pas un homme comme tant d'autres, c'est celui qui est le Fils du Très-Haut. Et comme je disais, il est capable d'influencer ta vie, mais dans le bon sens. Parce que lui, il est vainqueur et il est allé jusqu'au bout. Aucun leader, aucun autre influenceur ne pourra compléter aussi bien que Jésus. Donc c'est pourquoi Marc nous dresse ces petites images pour nous dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans toute sa capacité à être le maître de tout.